voix nue. Cette semaine, Jérôme Clément s'entretient avec Fabienne Verdier. Ce soir, le vieux maître Huang et la calligraphie.
Bonjour Fabienne Verdier.
Bonjour.
Alors, nous voici toujours chez vous, dans votre belle maison du Vexin français, près de votre atelier, que nous avons décrit hier au cours de la première émission et où vous nous avez raconté votre apprentissage de la peinture, votre goût très jeune, les relations avec votre père et ce père qui a été déterminant pour vous engager dans la vie artistique. Et puis, vos études à Toulouse, la découverte de du Muséum d'Histoire Naturelle, de la peinture, de l'écriture surtout. Et cela vous a conduit à aller voir le maire de Toulouse, M. Baudis, pour lui demander de partir en Chine.
Oui.
Vous avez écrit un très beau livre qui a été un succès mondial. Je ne dis pas ça pour vous flatter, mais c'est la vérité. Passagère du silence, 10 ans d'initiation en Chine. Un livre qui a été traduit, je crois, dans je ne sais pas combien de langues, une quinzaine de langues, et un grand succès. Et dans ce livre, vous racontez ces 10 ans. 10 ans, c'est très 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 long, quoi. Pratiquement... toute votre jeunesse, une partie de votre jeunesse,
oui, c'est vrai,
que vous avez vécu dans des conditions difficiles, très difficiles. Vous partez en quelle année ?
Je pars en 82-83.
On est après la révolution culturelle,
oui.
Mais les traces de la révolution culturelle sont encore très, très fortes.
Ouais, on arrive dans un système totalitaire encore très très marqué. L'arrivée a été très, très difficile pour moi.
Le premier chapitre de votre livre s'appelle « Socket blanche et jupe bleue ». C'est dire comment vous vous voyez arrivant à Pékin via Karachi, qui est le deuxième chapitre de votre livre. Mm. Vous arrivez à Chongqing, parce que la ville était jumelée à Toulouse. Mm-hmm. On vous met à l'Académie des Beaux-Arts comme interne.
Voilà.
Et là, c'est rude.
Et là, c'est très rude. Je suis tout de suite très bien reçue par les autorités de cette école d'art, mais très vite isolée, avec interdiction d'avoir des relations avec tout le milieu des étudiants. Oui. Il y avait plus de 2000 étudiants. Il y avait un Dazbao sur ma porte, en disant qu'il ne fallait pas déranger l'étudiante étrangère.
C'est Madame Liu.
Voilà, Madame Liu.
La responsable du Parti communiste chinois,
voilà,
à l'Institut, qui veillait strictement à ce que vous soyez isolé.
Mais dans l'idée d'avoir un service plus, d'avoir mes 10 petits plats préparés pour l'étudiante étrangère. Et je voyais les milliers d'étudiants avec leurs gamelles numérotées attendre leur repas. On avait l'impression d'être comme dans un camp très organisé. Avec le lever à 5 heures du matin, la gymnastique obligatoire, un numéro de place. Enfin, il a fallu que je rentre dans ce système-là et j'étais totalement hallucinée de voir qu'on pouvait vivre comme ça.
Et vous parliez pas la langue ?
J'avais appris des cours en autodidacte de mandarin, mais malheureusement, quand je suis arrivée, ils ne parlaient tous que le dialecte sichuanais, donc j'ai dû apprendre le dialecte sichuanais.
Et vous étiez toute seule, femme ?
J'étais toute seule. On m'avait mise comme chambre et lieu d'études de travail dans un bureau des affaires du parti. Donc j'étais à côté sous haute surveillance, avec des barreaux aux fenêtres, avec juste un lit, une paillasse, un peu d'eau chaude, une bassine pour faire sa toilette. Et c'était...
Oui, parce que vous étiez passée par Karachi pour venir, et là,
oui,
ça n'avait pas été facile. Vous
non.
avez eu un moment d'agression caractérisé.
Oui, oui, oui. Donc je suis arrivée dans un sale état physique, oui.
Et vous avez fait face à tout ça ?
J'ai fait face à tout ça.
Oui. Et avec une idée, c'est d'apprendre... d'apprendre la culture,
oui,
quoi, de comprendre un peu ce
donc,
qui se passait.
Très vite, ils m'ont organisé des cours que je devais suivre avec les autres étudiants. Et je me suis retrouvée devant le même plâtre de Beethoven que j'avais fui à l'Académie des Beaux-Arts de Toulouse.
Ouais.
Mais il fallait que je le peigne, que je le dessine avec l'esprit réalisme-socialisme. Donc j'ai compris que je ne m'en sortirais pas. Et j'ai fait tout un tas de démarches pour essayer de savoir s'il restait quelques vieux lettrés au sein de cette grande école d'art qui puissent transmettre le savoir traditionnel. Et on m'a dit que ça ne se faisait pas, que ça n'avait pas été réhabilité. Et donc, toute mon histoire et toute cette aventure, je la raconte dans ce livre, comment trouver ces derniers vieux lettrés.
Attendez, on va justement rentrer un petit peu dans les détails parce que d'abord, vous découvrez une chose tout à fait nouvelle pour vous, c'est qu'on peut peindre à l'horizontale et non pas à la verticale.
Ah oui, c'est
fondamental.
Fondamental.
Ça vous a marqué toute votre vie.
Toute ma vie, de quitter la peinture sur chevalet et de tout à coup avoir des pinceaux qui ne vont pas chercher la matière pour peindre à l'horizontale, mais qui se tiennent à la verticale avec une réserve intérieure. Voilà. Et donc la peinture se fait dans un acte d'écoulement,
oui.
Non pas par touche.
Je crois que c'est tout à fait majeur parce que vous découvrez deux choses. D'une part, l'horizontale, et d'autre part, qu'il n'y a pas que la peinture à l'huile, mais l'encre.
L'encre.
Et l'encre qui s'écoule avec des poches de peinture. Donc, cette technique sur le rapport entre l'horizontalité et la technique de peindre,
elle change du tout au tout.
Elle change du tout au tout. Alors, qu'est-ce qui s'est produit là quand vous avez découvert ça?
Eh bien, c'est ce qui m'a fait tenir pendant toutes ces années. J'étais évidemment fascinée par cette possible écriture d'une expression plus vitaliste des choses par l'écoulement. Et c'est le vieux Huang, quand je l'ai rencontré, qui m'a dit « Mais si tu veux apporter quelque chose à la peinture abstraite, il faut cultiver, il faut que tu t'exerces à cette expression, cet art de la calligraphie. » C'est lui qui m'a poussé à expérimenter ça. Et donc j'ai commencé à apprendre les bâtons de base.
Oui, mais avant d'aller voir... votre vieux maître Yuan, dont vous parlez beaucoup, qui a été fondamental. Vous allez faire de la gravure sur bois aussi.
La gravure sur bois, de l'art sigillaire, je vais graver des sceaux. J'apprends toutes les techniques et traditions populaires.
C'est ça. Et puis à un moment, vous vous dites, tout ça, c'est pas suffisant.
Oui.
Il faut que j'aille plus loin et que je trouve un grand maître de... la calligraphie.
Oui.
Et c'est à ce moment-là que vous avez l'idée de la calligraphie.
Ben, je cherchais un grand maître en peinture. Et il en restait deux dans cette grande école d'art qui n'avaient toujours pas été réhabilités. Donc ils vivaient très solitaires, enfermés chez eux, ne parlant qu'à leur petit oiseau. Et l'un a refusé, ayant peur de la présence étrangère au sein de l'université. Et puis l'autre, c'était le vieux Huang qui, quand j'ai frappé à sa porte, m'a paru une grande noblesse intérieure, d'une très grande sagesse tout à coup. Le personnage m'a bouleversée quand il, avec son détachement et son sourire. Et il a éclaté de rire en disant « Écoute, tu me demandes de transmettre des choses, mais je ne transmets plus depuis des années. Je n'ai plus de discussion avec mes propres enfants, ni avec ma propre famille. Je n'ai pas été réhabilité, c'est impossible. En plus, tu ne parles pas le dialecte sichuanais. Ça va être très difficile. »
Mais en plus, ça ne s'est pas passé tout seul. Hein. Il a fallu que vous lui fassiez la cour pendant 6 mois.
Voilà.
Hein, c'est-à-dire que vous
avez l'impression...
Faut pas transformer cette odyssée en un conte de fées. Arrivez en Chine, d'abord, c'est des conditions de vie épouvantables. Vous êtes isolé, vous parlez pas la langue, on vous traite quand même difficilement.
Oui.
Vous décidez d'aller voir ce vieux maître de peinture, puis quand vous racontez, vous dites j'ai frappé à sa porte, il m'a dit entrer, on a parlé des
choses. Non, c'était pas très
tout.
Difficile.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois? Vous avez fait la cour comment?
Eh bien, j'ai senti que j'avais trouvé la personne avec qui j'avais envie d'apprendre, déjà, intuitivement. Ensuite, j'ai été acheter quelques manuels de peinture et de calligraphie. Et j'ai commencé à, de moi-même, copier, pratiquer, voilà. Et j'allais lui déposer au pied de sa porte tous les jours. Et évidemment, les 2000 étudiants se sont tous moqués de moi, puisque tout se sait, tout le monde dénonce tout le monde. Enfin, c'est un univers très, très, très difficile. C'était un univers très carcéral, presque. Et puis, j'étais une femme et je n'avais pas du tout, jusqu'ici, compris que c'était un problème d'être une femme et de vouloir acquérir ce savoir que les femmes ne pratiquent pas dans la tradition. Et un jour, au bout de... Ça a été très long. 6 mois de dépôt tous les jours au quotidien.
6 mois de dépôt tous les jours au pied de sa porte. Vous étiez tenace. Hein?
Oui, j'étais tenace.
Vous vouliez le convaincre et le séduire.
Voilà. Mais un jour, au bord de... J'étais vraiment désespérée. J'étais dans une telle solitude que j'avais acheté sur les marchés un petit ménat, un petit oiseau qui parle le dialecte sichuanais, et qui faisait les 100 pas, et qui m'amusait beaucoup, et qui faisait des trous dans mes exercices, parce que j'avais accroché avec des pinces à linge tous mes exercices dans la pièce dans laquelle je vivais. Et puis, un jour, quelqu'un frappe à la porte. J'étais très étonnée, puisque personne n'avait le droit de venir déranger l'étudiante étrangère. Et c'est mon oiseau, le ménat, qui répond « Ching ching ben dan ». Ça veut dire « entre, espèce d'abruti ». Et la personne entre, et c'était le vieux Huang, qui a éclaté de rire, avec tous ses rouleaux sous le bras. Et c'est là qu'il m'a dit « Écoute, je regarde très consciencieusement, très minutieusement tout le travail que tu mets à ma porte depuis des mois. Je sais que tout le monde se moque de toi, mais je vois dans ton trait, je vois dans ta ténacité, je vois qu'il serait bon de te transmettre nos connaissances, mais sache que ça va être long, ça va être difficile. Je veux bien prendre ce risque et aller demander des autorisations officielles auprès des affaires du parti. » Ça prendra 10 ans, donc ou tu acceptes de me suivre pendant ces 10 années, ou je préfère ne pas me lancer.
Vous aviez 20 ans, donc ça voulait dire qu'entre 20 et 30 ans, vous passiez votre temps auprès de ce vieux maître à apprendre la peinture et à faire des traits. C'est ce qu'il vous a demandé au début.
Oui, pendant des... je continue d'ailleurs.
Oui. « Tout ce qui est dans la nature, dit-il, tout mouvement humain est une métaphore idéale pour instruire ton esprit à transmettre la vie au trait. Avant d'avoir appris à communiquer une tension physique et spirituelle au trait, il ne sert à rien d'aller plus loin. »
Exactement.
Donc vous faites des bâtons, quoi.
Je fais des bâtons et ça n'arrête pas pendant des jours et des jours et des jours. Parce que ce qu'il a tenté de me transmettre, et c'était très difficile, parce que c'est un enseignement du silence, il était taoïste, donc il n'imposait jamais rien. Il passait juste, et dans son état d'être et sa manière de discuter tout à fait librement, il transmettait certaines choses. Mais c'était à moi toujours de relever ce défi avec moi-même et d'avancer dans la connaissance seule. C'était un accompagnement, mais assez silencieux.
Ton trait n'a pas de muscle, il manque de tension.
Oui.
Celui-ci devrait être plus vif, plus agile.
Voilà. Donc, en fait, il m'a appris un tout autre rapport à la touche de peinture, à l'acte de peindre. Et en commençant par ce premier bâton, pendant des mois et des années, il me disait, il n'a pas d'ossature. Maintenant que tu as travaillé l'ossature, et ton trait manque de chair. Et puis maintenant que tu as travaillé la chair, il y a une circulation interne, il y a le sang. Il faut que ce trait de peinture soit comme un corps vivant. Et ça a duré comme ça, des années, des années, des années.
Il y a des moments de révolte, des moments où vous dites j'en ai assez de vivre comme une isolée, vieillir avec tout le monde.
Oui. Hein? Oui.
Et ça marche d'ailleurs, à ce moment-là, on vous dit bah oui, d'accord.
Oui, au bout d'un moment, c'était trop, trop difficile. J'avais les rats qui me bouffaient les doigts de pied quand je dormais. C'était quand même un peu inquiétant. J'avais perdu la moitié de mon foie. Attraper une sale hépatite, j'aurais pu en mourir. Donc oui, j'ai demandé un petit appartement de chercheur pour pouvoir avoir une vie un peu plus décente.
Et puis vous êtes en prise à tout ce qui se passe dans toutes les collectivités humaines, la jalousie de Madame Liu, les relations difficiles avec les garçons, certains voulant vous manipuler, disons.
Oui, c'était compliqué pour une jeune fille d'être...
Oui. Et vous résistez à tout ça?
Je résiste à tout ça.
Apprendre la peinture.
Pour apprendre la peinture, oui.
Et particulièrement la calligraphie, quoi.
Oui, alors la calligraphie...
Pas uniquement, mais...
Non, j'ai fait beaucoup de peinture aussi, mais ça a commencé par ces exercices, donc d'abord par ce premier trait, et puis ensuite, c'est toute une gymnastique mentale qui m'a enseigné sur l'idéogramme. Comment une pensée philosophique, comme par exemple le vide... ou l'essence du monde, enfin, au travers un caractère qui est comme une construction mathématique, hein, en 5, 10, 14 bâtons avec un sens d'écriture, comment l'interpréter de manière cursive, suggérer cette construction complexe hein, en un flux abstrait, et que tout le monde, les lettrés qui se retrouvent devant cette interprétation, comprennent la substance philosophique qu'il y a derrière, et comprennent, reconnaissent le trait. Et ça, ça a été très très long, ça a duré des années où je me suis beaucoup exercée, c'est une sorte de gymnastique mentale, et très vite, je me suis rendu compte que c'était magnifique comme enseignement pour la peinture. Parce que tout à coup, quand je me retrouvais devant d'autres formes de la complexité du réel, devant un arbre, devant une montagne, devant un paysage, un caillou, deux cailloux, trois cailloux, tout de suite, mon esprit, c'est comme un jeu de l'esprit, cherchait la manière essentielle, cursive, de suggérer cette forme dans une fluidité et une spontanéité très vivifiante pour celui qui la regarde. Donc voilà, ça, c'est grâce à tous ces exercices que j'ai pu trouver une nouvelle voie en peinture, de cette peinture abstraite spontanée.
Oui, là vous rentrez vraiment dans le vif de votre travail d'aujourd'hui, enfin qui a commencé à ce moment-là, même si les prémices étaient déjà jetées auparavant. Mais alors restons pour l'instant encore un peu en Chine, parce qu'il vous arrive d'être à l'aventure, donc vous décidez d'emmener des bateliers à Avignon.
Oui.
Alors ça, au Festival d'Avignon.
C'est le Festival d'Avignon.
Là, vous êtes un peu intégré, là, quand même. Ça y est, ils vous ont adopté. Enfin, pas tous, mais...
C'était le Festival d'Avignon qui voulait inviter les bateliers de tous les grands fleuves du monde. Donc, ils étaient venus dans le Sichuan me rencontrer, savoir si je pouvais aller repérer ces quelques bateliers sur le Yangtze, parce que l'École des Beaux-Arts était au bord du fleuve. Si on pouvait recueillir ce savoir et organiser un concert. Et c'est ce que j'ai tenté de faire, mais quelle ne fut pas ma surprise quand le gouvernement de la province du Sichuan a été très embêté que je m'intéresse à cette culture ancienne, et du jour au lendemain, tous les bateliers avaient disparu. J'arrivais plus à retrouver ce savoir. Et c'est à nouveau une grande bataille pour pouvoir les retrouver par des amis communs, recueillir leurs connaissances, arriver à convaincre le gouvernement que c'est une partie de leur culture très très importante, et qu'il faut recueillir ce savoir avant qu'il disparaisse. Et c'est vrai que le Festival d'Avignon nous a beaucoup aidés à protéger cette culture.
Et ça marche.
Ça a marché.
Ça a marché.
Quand ils sont revenus en Chine, ce sont devenus des grandes stars.
Des grandes stars, oui. Vous avez contribué à les lancer.
Oui, alors qu'ils vivaient dans une très très grande pauvreté.
Alors, bon, vous continuez tout votre travail de recherche, et puis vous allez, vous voyagez un peu, vous allez dans des tribus, je sais pas, le mot ne convient pas, enfin, dans des populations.
Des ethnies.
Ethnies en particulier, qui d'ailleurs maintenant, je ne sais pas si elles existent toujours, mais en tout cas, vous allez au Tibet.
Elles sont en voie de disparition, là, les Yi, les Bouyi, les Miao.
Oui, donc vous allez explorer.
À l'époque, c'était que des territoires interdits.
Mais vous y allez quand même.
Je partais avec mes camarades.
On a compris que vous
reculiez devant rien. Dans des paniers d'oies sur les cars, avec la fiente sur la tête, pour passer les douanes. Enfin, beaucoup d'aventures.
Mais là, vous cherchez quoi quand vous faites ça? Simplement à vous promener
pas du tout. Ça faisait partie de l'enseignement à l'université, d'aller dans la nature et d'aller visiter toutes ces ethnies et de peindre les gens dans les campagnes. Ça faisait partie de l'enseignement du parti. Donc j'ai beaucoup appris en les suivant. et en rencontrant tout ça.
Vous avez appris sur le plan humain et sur le plan artistique.
Oui.
Les deux.
Et sur le plan de la réalité du territoire politique. C'est-à-dire quand on arrive, chez les Yi et que tout à coup ils avaient interdiction de vivre leur culture et qu'on entendait Richard Clayderman avec des haut-parleurs au fin fond des campagnes, avec les Yi qui n'avaient plus le droit de pratiquer leur propre rituel et qui étaient ivres morts d'alcool de riz et qui me disaient sur le pas de la route il faudra raconter. Que toutes nos cultures sont en train d'être détruites par le parti. C'était très, très, très violent, très difficile à vivre.
Et puis il y a des moments où vous faites des bêtises, vous avez failli être lynché aussi.
J'étais dans les montagnes et il y avait un rituel, une vieille femme d'un petit village de montagne, il y avait un rituel de mort où on allait la brûler sur un bûcher. Et j'ai pas pensé, j'avais mon appareil photo et j'ai voulu faire quelques images. Et là, les Yi sont sortis avec leurs grands couteaux et j'ai cru que j'allais y passer. C'était si peu respectueux de ma part de vouloir
prendre des photos
et de perturber l'âme de l'ancêtre.
Oui.
Et c'est là que j'ai vu que j'étais surveillée par la police du parti parce qu'ils m'ont sauvée par rapport à ce Yi qui avait ce grand couteau. Et voilà, je me suis retrouvée en prison. Ah, c'est vrai, l'histoire des cheveux aussi.
Oui.
J'étais en train de peindre dans les campagnes et de dessiner ces Yi, qui étaient une des dernières ethnies qui possèdent une grande, grande natte. Les hommes possédaient une natte qui tombait jusqu'aux pieds. Et j'ai été tellement fascinée par cette natte qui déroulait de son chignon que j'ai attrapé la natte pour essayer de réfléchir à comment j'allais la peindre ou la dessiner. Et j'ai compris ensuite, après, quand ils m'ont expliqué, que le Yi avait droit de vie ou de mort sur la femme qui lui touchait la natte. Hein. Voilà. Ce genre de petites histoires que j'ai eues souvent.
Oui, petites histoires dans lesquelles vous risquez votre vie.
Oui.
D'accord. Parce que quand même, ce voyage en Chine vous a appris énormément de choses.
C'est vrai que j'ai pu rencontrer à l'époque les plus grands peintres, Lo Yanshao à Shanghai, qui était justement ce peintre dans la lignée du moine citrouillamère de Shetao. J'ai pu rencontrer Shaman Hai, grand, grand maître de la calligraphie à Hangzhou. J'ai pu rencontrer Wu Zhougen, qui avait son atelier à Pékin. Ils sont tous morts maintenant, mais c'était une très, très riche aventure que d'avoir pu partager des moments avec eux.
Oui, c'est vrai, vous parlez de Shitao, dont vous aviez emporté, c'était, je crois que vous l'avez pris en partant, c'était un cadeau de votre tante ou de votre grand-mère.
De Jacques Pimpano, du musée Kogan.
Les propos sur la peinture du moine citrouillamère. Voilà. Ça vous a pas quitté?
Ça m'a pas quitté, je vous l'ai sorti, il est juste là.
Ah, bon, on va le regarder. Oui, vous pouvez le prendre.
Oui.
Oh, c'est je suis ému en touchant ce livre. C'est un livre à la couverture jaunie, écrit en caractère latin, mélange chinois et bouddhique, volume 15, les propos sur la peinture de Shitao, traduction et commentaires pour servir de contribution à l'étude terminologique et esthétique des théories chinoises de la peinture. Institut belge des hautes études chinoises, Bruxelles, 1970. On voit qu'il a été travaillé, utilisé.
Mais c'était ma Bible, en fait. Et je crois que j'ai tenu 10 ans grâce à ce livre.
Et dedans, alors, c'est écrit en caractère latin et en caractère chinois.
Oui,
vous lisez le chinois?
J'ai appris.
Vous avez appris à le lire. Vous avez dit quelque part, la Chine fut pour moi un accélérateur de progrès et de connaissances extraordinaires. Vous le pensez toujours?
Je le pense toujours. Oui. Mais c'est vrai que c'est un paradoxe fou, difficile à comprendre, mais c'est le fait d'avoir été enfermé dans un bureau avec des barreaux aux fenêtres si jeune. Je n'avais que 4 livres pendant toutes ces années. J'avais les propos sur la peinture du moine citrouillamère. J'ai appris qu'avec des dictionnaires, en fait. J'avais le littré. J'avais le dictionnaire Ricci Et c'est grâce à ces quelques ouvrages que, dans ces moments d'immense solitude et finalement un temps infini, j'ai pu à ce point réfléchir, travailler et explorer en total autodidacte tous ces dictionnaires et de passer de la pensée chinoise à la pensée esthétique et à l'éthique qui soutient tout ça.
Fabien, après toutes ces pérégrinations, ces apprentissages, il a bien fallu que le voyage se termine.
Oui.
Vous avez fini par rentrer quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ?
Quand j'ai terminé mes études à l'école des beaux-arts du Sichuan, j'ai terminé cette période, on m'appelait la clocharde du Sichuan, là-bas, à suivre le vieux maître dans les montagnes sacrées. Et je suis arrivée à Pékin, où j'ai, pour gagner un peu ma vie, parce que j'avais plus de bourse pour survivre et continuer mes recherches, j'ai été attachée culturelle, attachée artistique à Pékin, à l'ambassade de France, où j'ai continué en parallèle mes recherches. Voilà. Et j'ai pu me rendre compte de toute cette tragédie de la révolution culturelle qui avait touché le milieu de la peinture. J'ai pu me rendre compte que la tragédie continuait dans le milieu du théâtre, dans le milieu de la danse, dans le milieu
et
de la musique.
Votre vieux maître est venu vous faire des reproches.
Oui, un jour, c'était terrible. L'ambassadeur, Claude Martin, qui vient me voir et qui me dit « Mais Fabienne, il y a un vieux Chinois devant l'ambassade qui a l'air de t'insulter, il est très très en colère, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe ?» J'étais très embêtée, je vais voir, et effectivement c'était le vieux Rang qui avait pris le train de Chongqing pour arriver à Pékin. Et quand il avait su que j'avais abandonné la peinture pour pouvoir vivre, il m'insultait en sichuanais, tu vas quand même pas devenir une débile de fonctionnaire après tout ce que je t'ai enseigné, après il faut que tu reprennes le pinceau, il faut que tu quittes l'administration. Il était très très en colère.
Mais il y a quand même eu deux événements encore importants, la maladie.
Oui.
Et la rencontre avec Guilin.
Cette rencontre avec Guilin était quelque chose de merveilleux pour moi, parce que j'avais traversé toutes ces années de grande solitude. Et tout à coup, à Pékin, j'ai rencontré cet homme qui parlait couramment chinois, qui vivait en milieu chinois.
Français entrepreneur.
Très vite, on a pu partager énormément de choses, cette passion pour la culture chinoise. Mais malheureusement, très rapidement, j'ai été empoisonnée dans un petit restaurant chinois par de la viande de porc, où il y a eu plusieurs morts. J'ai failli y passer. J'avais perdu, 20, 30 kilos. Les Chinois ne savaient pas comment faire pour me garder en vie. Je suis partie à Hong Kong rencontrer les grands professeurs et ils m'ont tous dit, il faut rentrer en France, on n'est pas sûr de pouvoir vous sauver. Je faisais plus que 35 kilos. Et donc c'est à ce moment-là que nous avons dû tout quitter pour rentrer en France. Quand j'étais à l'aéroport, j'avais ces affaires que m'avaient été dans mes valises, remis par tous les vieux lettrés. L'armée m'a arrêtée et a confisqué. Donc je suis rentrée, c'est une mise à nu totale de tout ce que j'avais, toutes mes recherches pendant ces 10 années. Je suis rentrée en France sans plus rien. 35 kilos.
Le dénuement, à voilà. Nouveau. Fin de l'aventure chinoise. Merci Fabienne Verdier pour cette belle narration de ce grand voyage, de ce long passage initiatique. Demain, nous parlerons de l'acte de peindre. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jérôme Clément avec Fabienne Verdier. À voix nue, réalisation Christine Robert, prise de son Christophe Goudin, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr.